Jamais de la vie tu m'auras. Quand je serai
célibataire, tu VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du mercredi 24 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Seboulia
et Michel Joseph.
Pour commencer, les titres.
Au Mali, report immédiat des assises nationales préalables aux élections.
Au Burkina Faso, colère et indignation hier à Ouagadougou à l'inhumation de gendarmes tués dans le nord.
L'ONU va évacuer les familles de ses employés internationaux en Éthiopie et la France appelle ses ressortissants à quitter sans délai ce pays.
En Afrique du Sud, Pretoria reste à l'opposition. Une leçon selon le président Cyril Ramaphosa.
Le président américain Joe Biden a invité quelques 110 pays à son sommet virtuel pour la démocratie.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Initialement prévues fin décembre, les dates des assises nationales de la refondation ont été décalées au Mali. L'annonce en a été faite hier soir dans un communiqué du panel de hautes personnalités en charge de l'organisation de ces assises. Des détails sur les motifs de ce rapport avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko.
C'est à la surprise générale que le panel des hautes personnalités de la Refondation, dirigé par Zeni Moulay, a annoncé à l'opinion nationale et internationale que les travaux des Assises nationales de la Refondation ne se tiendront plus du 21 au 26 décembre prochain. Et pour cause, le panel explique qu'il a entamé, depuis sa prise de fonction avec les forces vives, des concertations en vue de trouver un consensus le plus large possible pour une participation plus inclusive aux assises de la Refondation. Cette période sera certainement mise à profit pour convaincre le cadre des partis politiques pour une transition réussie qui, lors de sa rencontre avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le vendredi dernier, avait déclaré qu'il ne prendrait pas part aux travaux des assises. A noter que les autorités de la transition avaient conditionné la publication d'un calendrier électoral à la tenue de ces assises nationales de la Refondation. Mohamed Danioko, VOA Bamako.
Au Burkina Faso, 37 des 53 gendarmes tués le 14 novembre à Inata, dans le Sahel, ont été inhumés hier à Ouagadougou. Les parents de ces soldats morts étaient entre colère et indignation au cimetière. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ici au cimetière de Gonguin, ils sont 37 gendarmes identifiés depuis l'attaque de Inata à être inhumés. Les familles des soldats crient au scandale.
La profondeur même des tombes n'est pas à la hauteur de ces héros, de ces martyrs tombés. Moi je demande à la hiérarchie militaire de voir la façon dont on creuse les tombes.
Et quand vous prenez la façon dont les tombes ont été creusées, c'est un manque de respect pour les familles des victimes. C'est un manque de respect pour ces soldats tombés dimanche pour la patrie. C'est un manque de respect pour les veuves. C'est un manque de respect pour ces orphelins qui pleurent aujourd'hui.
Le président Kabore l'avait évoqué, les soldats morts et d'autres encore au front manquaient de rations alimentaires et leurs primes non versées. Cette proche de victime est remontée.
Le mal là, c'est pas le fait de voir le faire là, comme ça arrive à tout le monde. Mais les affamés comme si c'était prémédité là, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Les conditions dans lesquelles il est parti là, c'est surtout ça qui nous fait mal. C'est ça.
L'attaque d'Inata a fait au moins 57 morts dont 53 gendarmes. Le chiffre de 4 civils tués annoncé dès le premier jour n'a plus jamais été confirmé comme définitif ou remis à jour par le gouvernement qui avait pourtant parlé de bilan provisoire. Et ce lundi encore, 9 gendarmes ont été tués dans une nouvelle attaque d'un détachement militaire à Foubé dans le centre-nord du pays. Depuis des jours, la grogne monte dans le pays. Des manifestants demandent la démission du président Kabore. Face à la pression, Internet mobile a été coupé pour 4 jours par le gouvernement. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
L'ONU va évacuer d'ici à jeudi les familles de ses employés internationaux en Éthiopie, tandis que la France appelle ses ressortissants à quitter sans délai ce pays, où des combats se rapprochent de la capitale après plus d'une année de guerre entre forces gouvernementales et rebelles dans le nord.
L'émissaire américain pour l'Éthiopie a cependant fait état mardi de progrès naissant en vue d'une résolution diplomatique du conflit, mais il a prévenu que l'escalade militaire risquait de les rendre vains. Les précisions de John Linden.
Il y a des progrès naissants dans la tentative d'amener les parties à passer d'une confrontation militaire à un processus de négociation. Ce qui nous inquiète, c'est que les développements alarmants sur le terrain avancent plus vite que ces progrès fragiles, a souligné l'émissaire américain Jeffrey Feltman au retour d'une nouvelle mission à Addis Abeba. Après plus d'une année de guerre entre les forces gouvernementales et le Front de libération du peuple du Tigré, soutenu par l'armée de libération Oromo, les combats se rapprochent désormais de la capitale, poussant plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, à appeler leurs ressortissants à quitter l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dit vouloir aller sur le front. Lors d'une rencontre à Pretoria mardi, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le Kenyan Uhuru Kenyatta ont appelé à un cessez-le-feu. Le Programme alimentaire mondial annonce le lancement d'une importante opération d'aide pour les villes de Kombolcha et Désié dans la région de la Mara.
Benny Gantz est arrivé hier soir à Rabat pour une visite historique au Maroc, la première d'un ministre israélien de la Défense. Elle vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays, un an après la normalisation de leurs relations et en pleine tension entre Alger et Rabat.
Cette normalisation entre dans le cadre des accords d'Abraham entre l'État hébreu et des pays arabes, soutenu par l'ex-président américain Donald Trump. Washington avait reconnu du même souffle la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, revendiquée par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenu par l'Algérie, qui a rompu en août ses relations avec Rabat en raison d'actions dites hostiles du royaume.
En Afrique du Sud, Pretoria, la capitale, a une nouvelle fois été remportée par l'opposition. Une grande leçon a reconnu le président Cyril Ramaphosa au lendemain de la perte de Johannesburg par l'ANC, le parti au pouvoir. Le point avec Rosine Munezero.
C'est un gros revers pour nous, mais c'est aussi une grande leçon, a déclaré Cyril Ramaphosa en marge d'une rencontre avec le président Uhuru Kenyatta à Pretoria. L'ANC a subi un revers historique lors des élections locales début novembre, en passant pour la première fois sous la barre des 50% à un scrutin. Ce lundi, l'ANC a perdu le contrôle de la capitale économique Johannesburg. Le conseil municipal a choisi Mpong Palatse, une femme issue du premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Un autre candidat de ce parti, Randall Williams, a été confirmé à la tête de Pretoria, qui avait déjà été remporté par l'opposition municipale de 2016. Sans majorité absolue d'un parti, le choix du maire dans plusieurs villes, dont Johannesburg et Pretoria, était resté en suspens. Jusque-là, l'ANC avait remporté tous les votes à la majorité absolue depuis les premières élections démocratiques en 1994.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a invité quelques 110 pays et territoires à son sommet virtuel pour la démocratie en décembre, dont les principaux alliés occidentaux des États-Unis, mais aussi Taïwan, dans un message clair à la Chine, dont l'ombre devrait planer sur ce rendez-vous malgré son absence.
M. Biden ne l'a pas caché depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier. Le combat entre les démocraties et les autocraties incarnées à Cizié par la Chine et la Russie est au cœur de sa politique étrangère. Le sommet aura lieu en ligne les 9 et 10 décembre avant une rencontre en personne un an plus tard et c'est l'une des pièces maîtresses de cette priorité.
Le gouvernement s'est voulu ferme mardi face aux violences qui se poursuivent en Guadeloupe, malgré les efforts de policiers et de gendarmes. Si la cinquième nuit de violence a été plus calme que les précédentes, selon la préfecture, elle a toutefois été marquée par des tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre, ont dénoncé les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer.
Sur le plan économique, le président Joe Biden a annoncé mardi une initiative majeure pour faire baisser les prix du pétrole et donc de l'essence en puisant dans les réserves stratégiques américaines, et ce avant que ses compatriotes ne prennent la route pour la fête très familiale de Thanksgiving qui tombe ce jeudi. Washington a fait savoir que la Chine se joignait à cette initiative, tout comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni, mais sans guère donner de détails. La Minute Éco, Nanit Talani.
La RDC a reçu un prêt du Fonds africain de développement pour le projet Prodan dans le centre du pays. Il veut réduire la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales et créer des emplois et des revenus durables. Il bénéficiera directement à plus de 130 000 ménages, soit environ 750 000 personnes, et indirectement à 500 000 ménages. Il va inclure la création et la consolidation d'environ 35 PME agricoles et 60 000 emplois. La réponse de la BAD contre le COVID-19 a fourni une aide d'urgence à 31 pays l'an dernier. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal ont reçu de l'aide pour subventionner les factures d'eau et d'électricité des ménages vulnérables. En Sierra Leone, l'institution a soutenu la formation et la protection de 11 000 agents de santé. En Éthiopie, la capacité quotidienne de tests COVID-19 a quadruplé. Le Maroc a pu moderniser ses infrastructures de santé, permettant une prise en charge efficace des patients. Pour terminer, au Togo, les directeurs préfectoraux et les conseillers agricoles ont reçu des véhicules et des motos pour couvrir tous les villages de leur ressort. Ils pourront ainsi être en mesure d'assurer un encadrement au quotidien des producteurs agricoles et des formations aux nouvelles techniques agricoles, ainsi qu'un accompagnement efficace des coopératives agricoles.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Nigérian Victor Osimhen manquera finalement la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun, annonce son club. L'attaquant de Naples a été opéré hier après plusieurs fractures déplacées au visage et sera éloigné des terrains pendant 3 mois. Le joueur de 22 ans souffre de multiples fractures déplacées de l'orbite de l'œil et de la pommette gauche après un impressionnant choc aérien dimanche avec le défenseur de l'Inter Milan, Milan Skriniar. Avec cette blessure de l'avant-centre des Super Eagles, 19 sélections et 10 buts marqués, Naples, co-leader du championnat d'Italie avec l'AC Milan, perd jusqu'à la fin février celui qui est son meilleur buteur avec 5 réalisations en Serie A et 4 en Ligue Europa. Manchester City et le Paris Saint-Germain se disputent ce soir la première place de leur groupe de la Ligue des Champions. L'AC Milan en danger, bon dernier du groupe B avec un petit point. Le club lombard a une dernière chance d'éviter l'élimination précoce face à l'Atlético Madrid. Le FC Porto veut protéger sa deuxième place à Anfield contre Liverpool, déjà certain d'être premier du groupe. Derrière, l'Ajax Amsterdam déjà qualifié, le Sporting Portugal et le Borussia Dortmund jouent un duel à distance pour le deuxième ticket du groupe C. Le groupe D reste encore très ouvert avec les 4 équipes toujours en lice pour une place en 8e. Mais si les deux favoris, le Real Madrid et l'Inter Milan, s'imposent, les jeux seront faits. Le Real se déplace chez le shérif Tiraspol. L'Inter Milan a de son côté l'occasion de sortir de la course le Shakhtar Donetsk. Hier, premier rebond pour Manchester United qualifié pour les 8e de finale grâce à sa victoire à Villarreal 2-0 pour la première de Michael Carrick comme entraîneur. Manu a longtemps fait le dos rond contre le sous-marin jaune avant de piquer par Cristiano Ronaldo et de verrouiller la qualification par Jadon Sancho. Comme attendu, Chelsea et la Juventus Turin se sont qualifiés même si les champions d'Europe ont pris leur revanche de l'aller en battant la Juve 4-0. Xavi a sorti un pâle 0-0 contre Benfica pour sa première sur le banc du Barça en Ligue des Champions. 3-3 entre l'Atalanta Bergame et Villarreal. Lille a battu le Red Bull Salzbourg 1-0. Malmö a marqué son premier but dans la compétition, mais s'est laissé remonter par le Zénith 1-1. Au classement des buteurs, l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a conforté sa première place en ouvrant le score sur le terrain du Dynamo Kiev, battu 2-1 par les Bavarois. Lewandowski en est désormais à 9 buts cette saison et il devance l'attaquant ivoirien de l'Ajax, Sébastien Haller. L'insatiable Cristiano Ronaldo suit avec 6 buts. La star portugaise en est à 140 buts inscrits en Ligue des Champions. Un record.
Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Deux résultats, New York Knicks et LA Lakers, 106 et 100. Miami et Détroit, 100 et 92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le blocage de l'accès à Internet sur les réseaux de téléphonie mobile a été mis en place samedi. Le gouvernement soutient que cette interruption est nécessaire pour des raisons de défense nationale et de sécurité publique, tandis que les militants de la société civile affirment qu'il s'agit d'une violation des droits publics. Un reportage d'Henry Wilkins de Ouagadougou, repris ici par Lionel Gahima.
La fermeture de l'accès à Internet via les réseaux de téléphonie mobile qui a commencé samedi s'est prolongée hier mardi pour un quatrième jour. Le gouvernement soutient dans un communiqué que cette décision a été prise pour des raisons de défense nationale et de sécurité publique et devait durer 96 heures. Réaction des Burkinabés dans les rues de Ouagadougou. Alexis Sawadogo, un médecin devant une banque sur l'un des boulevards de la ville, était venu là pour vérifier le solde de son compte car la coupure d'Internet l'empêchait de le faire en ligne.
Ça nous déconnecte de nos amis qui sont à l'extérieur. Okay. On communique régulièrement. Voilà. Nous, on peut comprendre que c'est peut-être avec le convoi français qui passait qu'ils ont stoppé ça à Kaya. Ça peut être ça. Okay. Voilà. Sinon, dire que c'est l'insécurité, ce n'est pas valable.
Ce blocage de l'accès à Internet sur les téléphones mobiles est intervenu après des manifestations empêchant un convoi de ravitaillement militaire français. En provenance de la Côte d'Ivoire, ce convoi d'au moins 60 véhicules est en transit dans le pays pour le Niger et Gao au Mali. Les manifestants disent vouloir la fin de l'intervention militaire française dans la guerre contre les militants islamistes. Depuis quelques semaines, il y a eu aussi des manifestations contre la gestion de la sécurité par le gouvernement. Une attaque de djihadistes présumés a fait au moins 57 morts, dont 53 gendarmes, le 14 novembre à Inata, dans le nord du pays. Les funérailles de certaines des victimes de l'attaque d'Inata ont eu lieu hier à Ouagadougou. Drabo Mahamoudou est le secrétaire exécutif national du mouvement Sauvons le Burkina Faso, l'un des groupes qui appelle à la démission du président Roch-Marc Christian Kabore. Il dit avoir appelé la population à assister aux funérailles des gendarmes et à venir à une manifestation samedi.
Le gouvernement est insensible à la douleur du peuple. Nous, nous appelons la population à sortir massivement le 27 là, pour prouver à ce gouvernement-là qu'ils ne sont pas là pour aider le Burkina Faso, mais c'est eux-mêmes qui sont là pour causer le tort au Burkina Faso.
Aucun porte-parole du gouvernement n'a pu être joint pour faire un commentaire. Héloïse Bertrand, chercheuse à l'université de Portsmouth et spécialisée sur le Burkina Faso, estime que cette coupure d'Internet peut aussi se retourner contre le gouvernement.
Je pense que cette fermeture pourrait bien se retourner contre le gouvernement. Nous pouvons voir que les groupes de la société civile et les parties prenantes qui n'étaient pas vraiment impliquées dans les manifestations contre le convoi français sont agacés et en colère par cette coupure d'Internet.
Le convoi militaire français, selon une source sécuritaire attend à environ 30 km au nord de la capitale. Les manifestations se poursuivent dans le pays. Les 96 heures de coupure d'Internet expirées hier soir.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Soudan, plusieurs hommes politiques détenus depuis le coup d'État militaire du 25 octobre ont été libérés au lendemain d'un accord critiqué entre l'armée et le premier ministre Abdallah Hamdok. Est-ce une victoire pour le soulèvement populaire et la diplomatie internationale? Claire Morin-Gibourg a posé la question aux spécialistes du Soudan et analystes pour The Century, Suleiman Baldo.
Les putschistes ont été confrontés à une opposition farouche par la population soudanaise et qui les a obligés à ramener le premier ministre Abdallah Hamdok au poste dont ils l'ont écarté. Donc c'était une concession sous la pression et sous la menace des résistances croissantes de la population. Deuxièmement, la pression internationale a certainement aidé. Troisièmement, il faut savoir que les putschistes n'ont pas relâché tous les prisonniers politiques, Ce sont surtout des hommes d'État sous le partenariat entre les militaires et les civils dans la période précédente qui se sont opposés aux tentatives de la composante militaire.
Alors, la réinstallation du Premier ministre Abdallah Hamdok va-t-elle relancer la transition au Soudan, selon vous ?
Ce n'est qu'un premier pas, comme l'a dit le secrétaire d'État Blinken dans son appel téléphonique à la fois au chef de l'armée, Burhan, et au Premier ministre Abdallah Hamdok. Dans le sens où nous devons tous observer ce qui se passerait dans les prochains jours et semaines et les prochains mois. Parce que si les militaires sont sincères en donnant la précédence et le leadership de la transition civile, ça veut dire que c'est vraiment un pas en avant. Sinon, s'ils veulent calmer les choses tout en maintenant le contrôle effectif de la transition pour les militaires et leurs alliés, cela veut dire que ce n'est pas un mouvement qui a une chance de réussir. Les populations sont très mobilisées, très attentives à ces questions-là. Et s'ils voient les militaires insister, contrôler la transition à leur façon, il y aura toujours un rejet de cela d'une façon massive par la population locale.
À ce propos, l'association des professionnels soudanais a, dès dimanche, accusé M. Hamdok de suicide politique suite à son accord avec le général Burhan.
Hamdok a performé comme un homme d'État responsable. Il voulait surtout épargner au Soudan davantage de violences meurtrières. Deuxièmement, il a voulu préserver les acquis que le Soudan a gagnés sous son leadership. Le pays était en train de regagner une certaine respectabilité internationale et le coup a tout mis en cause. Et Hamdok, maintenant, est intervenu pour essayer de sauvegarder ses acquis. Et donc, pour lui, c'est une intervention nécessaire, malgré le fait qu'il a risqué sa popularité et son soutien dans les yeux de la population et de la...
Suleiman Baldo, spécialiste du Soudan et analyste pour The Century.
Washington, la voix de l'Amérique.
Selon les économistes, le modèle d'investissement de la Chine en Afrique gagne le soutien du public malgré le fardeau de la dette pour de nombreux pays. De l'avis des experts et des habitants, les investissements de plusieurs milliards de dollars des États-Unis en Afrique sont moins visibles et ont moins d'impact sur la vie quotidienne des gens. Reportage de Victoria Amunga à Nairobi, récit de John Linden.
L'entreprise électronique de Catherine Kira est parmi des milliers au Kenya qui distribuent des produits à la fois en provenance de Chine et des pays occidentaux. Mais pour Kira, ces produits chinois sont ceux qui passent le plus rapidement.
There's first quality.
Il y a de la première qualité, de la deuxième à la cinquième qualité. Donc cela dépend de la demande du client parce que nous vendons quelque chose que le client veut. Si c'est une ampoule pour 30 shillings, je l'ai. Si c'est une ampoule pour 50 shillings, je l'ai aussi.
L'électronique est une cible pour les entreprises chinoises en Afrique. Pour les habitants, de tels investissements ont un impact direct sur leur vie quotidienne. Joseph Kamau, résident de Nairobi.
Beaucoup de produits que nous voyons dans les magasins viennent de Chine. Les projets gouvernementaux dont nous entendons parler sont également dirigés par des Chinois. Donc, même si l'Amérique investit, nous ne voyons pas ces investissements sur le terrain. Nous entendons dire que l'Amérique a fait ceci et cela, mais nous ne voyons pas cela à notre niveau.
Les économistes estiment que le modèle d'investissement des pays étrangers est essentiel dans la compétition en termes d'influence sur l'Afrique. Wahoro Ndoho, économiste.
China has followed its money in.
La Chine a suivi son argent dans les pays dans lesquels elle a investi, contrairement à d'autres prêteurs. Elle a suivi ses projets avec des ingénieurs, parfois même à l'extrême, au point d'avoir leurs propres travailleurs sur place. Cela a eu un impact visible.
Lors de sa tournée dans trois pays d'Afrique la semaine dernière, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que son pays investissait sur le continent sans imposer des niveaux d'endettement insoutenables. Dans une déclaration faite à VOA, Ouahoro note que la distinction est importante.
Si vous regardez l'image globale de l'encours de la dette, et j'entends par là d'autres dettes au-delà des prêts commerciaux, la Chine a été principalement pour la dette commerciale, l'Occident est toujours en avance en termes de dollars réels sur le terrain, et aussi parce que, si vous incluez les institutions détenues par le FMI, la totalité de ces institutions bilatérales et multilatérales, vous voyez, c'est toujours l'espace occidental.
Dans le but de renforcer les relations avec l'Afrique, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle va accueillir un sommet avec des dirigeants africains en 2022.
La perception d'une urgence climatique a stimulé les soutiens à la Grande Muraille Verte, un projet colossal de restauration des terres visant à stopper l'avancée du désert entre le Sahara et le Sahel. Mais il y a encore loin entre la vision initiale de cette merveille naturelle traversant l'Afrique sur des milliers de kilomètres et la réalité. Gini Kapumbu-Villa nous en dit plus.
La reforestation du plateau de Simiri au Niger a débuté en 2013. Armés de pioches et de bêches, des villageois ont construit des digues qui retiennent plus longtemps les eaux de pluie autour des jeunes arbres pour assurer leur croissance, même en cas de sécheresse. On peut voir des termites s'enfoncer dans des galeries, des empreintes d'écureuils et de perdrix, ainsi que des mantes religieuses accrochées aux arbres ou des nuées de sauterelles dévorant les feuilles. Mouhamadou Soulé, chef des services de la lutte contre la désertification de Simiri.
On est toujours sur le site de la Grande Muraille Verte. Donc, comme on l'avait dit tantôt, et la toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement, les banquettes, et puis les 2001 sylvopastorales. Donc, ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés.
La Grande Muraille Verte, projet de l'Union africaine, vise à restaurer d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique sur une bande de 8000 km allant du Sénégal à Djibouti, en passant par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée et l'Éthiopie. Cependant, il y a des zones où les paysans craignent de s'aventurer à cause des attaques djihadistes, ce qui risque de compromettre la concrétisation de ce chantier gigantesque. Le colonel Maïcharou Abdou, directeur général de l'agence de la Grande Muraille Verte au Niger.
Très important cette insécurité-là qui est parvenue vraiment au niveau de l'initiative. Ce n'est pas uniquement au niveau du Niger, c'est par rapport à l'ensemble des pays du Sahel. Ça pèse beaucoup, non seulement en termes de coûts, mais également en termes d'accessibilité pour pouvoir faire des réalisations. Donc pour le moment, vraiment, nos actions sont concentré au niveau des zones où on peut accéder. Mais il y a beaucoup de zones qui ont besoin de cet abri-là, mais on ne peut pas accéder à cause de cette insécurité-là.
Le Niger ambitionne de reverdir 3,6 millions d'hectares sur 37,5% de son immense territoire d'ici 2030. Malgré les apports de l'ONU et la Banque mondiale, le Niger a besoin de plus de 454 645 milliards de francs CFA. Les zones forestières du Sud ont déjà perdu un tiers de leur surface, selon les programmes des Nations Unies pour l'environnement.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'état des lieux de la pandémie de COVID-19 en Afrique et dans le monde. Alors que la plupart des pays occidentaux ont entamé leur campagne de vaccination pour une dose de rappel, en Afrique, la majorité de la population n'a pas encore accès au vaccin. Et pourtant, c'est sur ce continent que le nombre de décès est le plus bas. Néanmoins, l'impact de la pandémie sur l'économie et le système sanitaire est très lourd en Afrique. Comment faciliter l'accès aux vaccins et autres types de traitements à venir, comme les comprimés de Merck et Pfizer? Devrait-on apprendre à vivre avec le virus pour permettre une relance totale des activités? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sédoudia et Michel Joseph, qui étaient également à la mise en onde. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.